Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, au micro et à la technique Adeline Leukmans. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Maëlle Duprier, géographe, fraîchement diplômée de l'ULB, et Maëlle Duprier, dans le cadre des recherches qu'il a effectuées pour son mémoire, s'est plongée dans les transports publics bruxellois, et plus précisément dans la ligne métro 3, ligne qui devrait peut-être hypothétiquement un jour voir le jour. Et un des aspects qu'il a analysé, c'est l'impact que cela aura sur les correspondances, c'est-à-dire le nombre d'arrêts ou le nombre de changements, c'est plutôt ça, le nombre de changements de transport que les gens devront faire pour passer par cet endroit. Alors, c'était le sujet de son mémoire et c'est également devenu le sujet d'un article publié auprès des Brussels Studies. Voilà. Donc, je lui laisse la parole tout de suite à Maëlle Duprier. Maëlle Duprier, on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un article que vous avez publié il y a quelques mois, qui découlait de votre sujet de mémoire, puisque vous avez étudié la géographie ici à l'ULB. Alors c'est assez amusant parce que vous venez de Namur, mais ce sur quoi vous avez travaillé, c'est le métro bruxellois. Ouais. Et plus particulièrement, cette... tristement célèbre ligne 3.
Oui, en effet. Donc j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus dans le cadre de mon mémoire, et plus précisément sur l'impact des correspondances sur les temps de parcours en transport en commun. Et j'ai fait un focus sur Bruxelles, et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu en effet faire des calculs, de la modélisation sur les transports en commun à Bruxelles, et puis j'ai pu faire un article focus sur le métro 3 et toute la première problématique qu'aujourd'hui il engendre. Mmh. Voilà.
Alors l'article a été publié dans les Brussels Studies. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le processus, pas de l'écriture de l'article, mais du travail de recherche qu'il y a eu là derrière. Travailler sur la modélisation des temps de transport et des correspondances, ça veut dire quoi exactement?
Donc concrètement, c'est dans ce cas-ci, j'ai pris, pour donner juste un petit détail, j'ai pris plusieurs scénarios. Donc j'ai pris un scénario de référence qui est le scénario actuel du réseau de transport en commun de la STIB à Bruxelles, et j'ai modélisé différents scénarios potentiels futur, comme le scénario incluant la ligne de métro 3 complète comme prévu, et puis la version amputée, et un autre scénario. Et en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ajuste les lignes pour faire de la simulation d'un futur réseau, et puis après, on calcule des itinéraires. Alors pour ma part, j'ai fait des itinéraires, j'ai calculé plus de 18 000 itinéraires dans Bruxelles, entre 25 destinations et tous les secteurs statistiques de Bruxelles. Donc c'est une entité administrative, c'est, on va dire, à l'échelle de quartiers, quoi. Et en calculant tout ça, après on peut voir l'impact qu'un changement de réseau a justement sur l'accessibilité, et donc a sur les temps de parcours, sur le nombre de correspondances. Et j'ai aussi étudié le temps de parcours perçu, parce que les temps de parcours perçus sont toujours très intéressants pour aller au-delà du simple temps théorique. Et donc concrètement, ça veut dire ça, ça veut dire on a un réseau de transport public, on a des origines, des destinations, et on essaye de représenter au mieux l'ensemble des trajets que pourraient faire tous les Bruxellois et Bruxelloises, et voir quel est l'impact ici, dans ce cas-ci, de différents scénarios de reconfiguration potentiels. Mmh. Voilà.
Alors, quand vous dites temps réel, temps perçu, Maëlle Duprier, pour travailler sur le temps perçu, on travaille avec quoi, des interviews?
Donc, pour les temps perçus, donc personnellement, j'ai réutilisé des coefficients qui venaient d'une étude Stratex, justement, qui a permis de définir des coefficients de perception des différentes composantes d'un temps de parcours, donc c'est-à-dire d'un trajet en transport en commun. Donc c'est-à-dire on a différents coefficients pour le fait d'avoir une correspondance, le fait d'avoir plusieurs correspondances, le fait d'avoir un temps de parcours en tram, en bus, d'avoir un temps de parcours en métro, d'avoir le temps de marche aussi. Et en fait, tous ces temps de trajet sont perçus par les gens, parfois de manière supérieur ou inférieur au temps théorique. Et donc après, on peut faire des moyennes sur base d'enquêtes de préférences déclarées. Et ça permet d'avoir ces coefficients. Bien sûr, ce sont des moyennes. Bien sûr, on peut remettre en question ces coefficients. Mais voilà, ça permet d'avoir une meilleure perception des gens sur un trajet. Parce que bien que le temps théorique pourrait être, imaginons, de 20 minutes pour se déplacer d'un endroit à un autre, en fait, on peut le percevoir de manière bien plus longue, si justement on a un problème sur le réseau, si justement on a une correspondance à un arrêt où on ne peut pas se mettre à l'abri de la pluie, ou ceci, cela. Et donc ça permet d'apporter cette perception qui varie par rapport au temps théorique. Et donc concrètement, moi voilà, j'ai réutilisé des coefficients qui ont été établis par Stratec.
Alors, si on se penche bien sur la situation actuelle, Maëlle Dupriez, que peut-on dire du réseau actuel des transports publics à Bruxelles?
Plein de choses.
Oui, plein de choses. C'était une question très très vague. Moi, du coup, personnellement, donc comme en effet, je ne suis pas bruxellois. Je n'ai eu une expérience que pendant mes années d'études à l'Université libre de Bruxelles ici. Mais ce que je peux en dire, c'est plus particulièrement ici avec ce projet de métro 3, c'est que il engendre voilà des grandes questions annexes parce qu'il y a certes ce projet qui voilà à plusieurs égards paraît un peu on va dire démesuré. Et puis on a en fait tous des autres aspects du réseau qui sont, on va dire, ou qui pourraient être ignorés à cause de ce projet qui aspire, on va dire, toutes les ressources en ce moment, que ce soit par exemple rendre les quais plus inclusifs, que ce soit, oui, améliorer la fréquence ou désengorger certains axes. En fait, il y a plein de problématiques, forcément, dans un réseau de transport en commun, Un réseau va toujours évoluer en fonction de la démographie, en fonction des changements d'un quartier à un autre, etc., en fonction de la réorganisation des lignes. Donc ce qu'on peut en dire, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours moyen de l'améliorer, mais qu'aujourd'hui, tout est centralisé par ce projet de métro 3 qui occulte, je pense, d'autres problèmes qui pourraient être réglés, qui méritent plus d'attention, je pense. Que ce méga projet.
Avant le lancement du projet Métro 3, donc vous disiez, ben, vous avez travaillé sur trois scénarios différents. Le scénario actuel, on en est, voilà, ça fonctionne comme ça, etc. Le scénario Métro 3, hypothétiquement, quand il sera terminé, ou le scénario Métro 3 amputé. Si on veut regarder la situation aujourd'hui, donc vous disiez effectivement il y a des choses qui posent problème actuellement sur le réseau et les investissements ne vont pas à ces choses-là. Maintenant, si on regarde d'un point de vue simplement fonctionnement du réseau, est-ce que le réseau des transports publics bruxellois est un réseau qui fonctionne plus ou moins bien, qui permet à tout le monde de se rendre à peu près partout, ou est-ce que également dans son parcours, dans sa distribution, il y a aussi des lacunes?
Alors, je vais principalement répondre en tant qu'usager. Donc, comme je disais, étant namurois, quand je compare au réseau que j'ai à Namur, le principal avantage ici qu'on a avec la STIB, c'est qu'on a des horaires élargis jusqu'à tard le soir. C'est vraiment un luxe que je me suis rendu compte seulement en venant ici dans la capitale belge. Il y en a aussi quand même assez fréquemment comparé à même du coup la capitale wallonne Namur. Il y en a ici les bus sont beaucoup plus fréquents, etc. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des améliorations à faire. Je pense qu'en effet, il y a des quartiers où il y a des grosses problématiques d'engorgement, etc. Voire des quartiers peut-être qui sont mal desservis, voire pas desservis. Donc ça, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais ce que je pense maintenant en tant que donc notamment en tant qu'usager, mais là aussi en tant que chercheur, c'est la problématique des correspondances. Je m'explique, depuis plusieurs années, en fait, la STIB a préféré des courtes lignes à des longues lignes. Classiquement, enfin historiquement, on avait des lignes, que ce soit de tram, de bus, qui étaient plus longues, et pour une raison avancer par la STIB comme plus de régularité, etc. Ils ont préféré découper toutes ces lignes en des plus petites lignes parce que le risque d'irrégularité sur ces lignes est plus faible en ayant plein de plus petites lignes plutôt qu'en ayant des grandes lignes. En soi, est forcément vrai, puisque si on a une longue ligne, si on a un problème, par exemple, sur la ligne de tram, ça bloque tout le reste. Mais, cependant, ça occulte un autre problème, qui est que, pour les usagers et les usagères, en fait, avoir des correspondances est une peine, la plupart du temps, sans même parler des personnes à mobilité réduite. Mais, simplement, déjà, pour une personne, je pense que tout le monde rêve d'avoir une ligne qui va de son travail à chez soi sans qu'on doive faire une voire deux correspondances. Parce que chaque correspondance apporte de l'insécurité, d'autant plus quand on est à des horaires où le temps de correspondance peut être long. Si on loupe le bus, on doit attendre, je sais pas, 15-20 minutes parfois. Ça amène plein de problèmes, ces correspondances. Et je pense que ça, c'est un peu un compromis entre, certes, pour la STIB et en tant qu'opérateur, il faut arriver à avoir un certain niveau de régularité, mais en même temps, il y a toujours de l'irrégularité. Et le fait d'imposer plein de correspondances en plus, je pense, n'est pas spécialement la... Enfin, il y a un moment, il faut avoir une limite. Et je pense que... Enfin, je refais le parallèle ici avec le projet de Métro 3. Ce projet, et notamment dans sa version amputée à seulement Albert, Gare du Nord, créera plus de correspondances pour les gens. Et je pense que c'est ça l'une des plus grosses problématiques, c'est qu'il y a plein de gens qui vont avoir des trajets où ils vont avoir une, voire parfois deux correspondances en plus, et ça ne va pas aider au report modal vers les transports publics, loin de là. Et donc je pense que là, il y a clairement un enjeu à continuer d'approfondir, parce que forcément, moi, je le dis ici, mais je suis pas le premier qui étudie la question, que ce soit de l'inclusivité et donc des correspondances ou de... Voilà.
Alors, on va y revenir effectivement à l'impact de cette nouvelle ligne. Mais pour simplement peut-être reformuler ce que vous venez d'expliquer, Maëlle Dupriez, on se retrouve ici en fait entre deux visions, deux choix qu'une société commerciale, je veux dire, hein, la STIB, qu'une société a faite, c'est-à-dire d'un côté faire le choix de diminuer les risques de problèmes sur les lignes, mais en faisant abstraction de l'insatisfaction des consommateurs.
Oui, je pense que c'est très bien résumé, et je pense que là où ça a peut-être et certainement eu du sens du côté de la STIB, je pense que l'impact que ça a aujourd'hui sur les usagers et les usagères des transports publics bruxellois est tout aussi réel, et que cet impact ne va pas aller en s'améliorant si on continue sur cette logique. Et je pense que... Oui, c'est ça, que qu'il y a une dualité de vision et que je pense qu'un entre-deux ou un meilleur équilibre entre les deux serait meilleur, d'autant plus qu'on sait qu'à l'époque, c'était le cas des plus grandes lignes, etc., que c'est le cas dans diverses capitales européennes aussi, des plus longues lignes, et que ça ne pose pas pour autant plein de problèmes. Et je pense qu'alors peut-être ce qu'on pourrait essayer d'enquêter, c'est voir s'il n'y aurait pas une autre manière de moduler, de modérer cette irrégularité de ligne que par la réduction des tailles et des longueurs de ces lignes, mais d'essayer de voir si on peut pas, voilà, notamment avec la mise en site propre, et donc ça impose une opposition face à la voiture, et donc forcément c'est des choix et des visions de société, là au sens société civile, on va dire, c'est des visions différentes et c'est des choix en effet qui s'oppose, et on voit clairement quelle est celle de la STIB en ce moment, quoi.
Alors ce choix de réduire la longueur des lignes, c'est quelque chose qu'on voit pour toutes les formes de transport, alors pas le métro évidemment, puisque là c'est déterminé, mais autant pour les trams que pour les bus.
C'est une très bonne question. Je pense que, en tout cas dans le cas de Bruxelles, c'est forcément, je pense, plus pour les bus, parce que les bus, c'est quelque chose de plus modulable, puisque une ligne de bus, on peut plus facilement la faire dévier par telle ou telle rue, alors qu'une ligne de tram, on a l'infrastructure, on a les rails, on peut plus difficilement se dire, bon, voilà, on coupe là et tous les rails après, on les supprime. Cependant, il y a quand même aussi plein de portions de rails qui sont communes à différentes lignes, etc. Et ça n'a pas empêché des réorganisations multiples par le passé. Et donc, je pense que, peut-être légèrement plus pour les bus, mais je pense que les trams sont loin d'être impactés par cela.
Est-ce que dans les recherches que vous avez pu consulter, dans le cadre du travail pour votre mémoire et pour l'article, est-ce qu'il y a aussi eu des enquêtes de satisfaction du public? Est-ce que c'est